Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Émission spéciale aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs. Asialogie vous raconte Hiroshima du point de vue de ceux qui l'ont vécu, avec Linda, notre chroniqueuse littéraire de la librairie Doucet, qui nous parlera de destins de femmes et d'hommes atomisés, de survivants et de résilience. Bonjour Linda.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être venue.
C'est un plaisir.
Quant à toi, Partager. Didier, oui. En deuxième partie d'émission, tu nous présenteras le parc et le musée du Memorial Park d'Hiroshima,
voilà.
Un site incontournable à visiter absolument lors
Clairement.
D'un voyage au Japon.
C'est ça.
Alors en attendant, les livres merveilleux de Linda et puis le parc impressionnant d'Hiroshima, je vais d'abord planter le décor, ce décor tragique et vous rappeler le contexte politique et les raisons pour lesquelles le Japon a reçu deux bombes atomiques en août 1945. La première sur Hiroshima le 6 août et la deuxième sur Nagasaki le 9 août. On est en guerre depuis 1939 et en décembre 1941, l'aviation japonaise lance une attaque surprise dans le Pacifique, c'est Pearl Harbor, un électrochoc pour les alliés et la guerre va donc devenir mondiale. Alors en 1942, donc peu de temps après, la France est occupée et les forces allemandes et japonaises avancent, chacune dans leur secteur. Et c'est à ce moment-là, à la demande du président Roosevelt, que le projet Manhattan, ultra secret et ultra prioritaire, va réunir des scientifiques, des techniciens et des industriels en septembre 1942. Alors maintenant, on connaît tous, hein, depuis juillet 2023,
oui.
Le film Oppenheimer,
c'est ça,
Oppenheimer. Le fameux l'histoire, enfin, le, oui. Oui, du film. Physicien qui s'appelait Julius Robert Oppenheimer. C'est lui qui va diriger l'équipe
voilà.
Qui fabriquera la bombe. Alors la bombe au plutonium, sûre et puissante, avait la faveur des techniciens, mais était complexe à fabriquer. L'autre option était la bombe à l'uranium, instable, donc dangereuse pour les équipages qui la transporteront, mais qui a priori n'était pas si compliquée que ça à fabriquer. Alors un exemplaire de chaque modèle sera prêt en juillet 1943. Ce sera la bombe à l'uranium qui sera choisie pour Hiroshima et pour Nagasaki, ce sera la bombe à plutonium. Alors le président Truman, qui a succédé à Roosevelt, va annoncer la décision d'utiliser l'arme nucléaire à Staline et à Churchill le 26 juillet 45. Un ultimatum sera adressé au Japon qui le rejettera le 28. Donc très important ce mois de juillet 1945. Alors Truman pense que la bombe va précipiter la capitulation du Japon déjà divisé entre ceux qui envisagent de se rendre et le clan militariste et nationaliste qui veut poursuivre la guerre jusqu'au bout. C'est aussi un moyen de placer les USA en position de force face à l'Union soviétique. Il ne faut pas l'oublier, il y avait quand même aussi une petite
Bien
guerre. La guerre froide n'était pas encore là, mais
elle était pressentie.
Voilà, il y avait des bases.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc c'était les USA face à l'Union soviétique pour les règlements de l'après-guerre.
Oui, bah. Décris-nous donc cette bombe-là, Little Boy.
Oui, elle s'appelait Little Boy, cette
C'est
bombe.
C'est ça.
Alors, elle mesurait 3 mètres de long et 0,7 mètres de diamètre, 71 centimètres.
D'accord.
Voilà, et 4 tonnes. 4
D'accord.
tonnes. Alors,
Mais...
c'est quand même, je pense, une grosse bombe.
Oui.
En taille. Mm-hmm. Hein, donc, le bombardier B-29 a
Les
dû être
B-29, ouais.
Voilà, aménagé pour la transporter. Et cette bombe contenait 64 kilos d'uranium 235, mm-hmm. avec une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT ou à 22 000 tonnes de dynamite. Voilà, c'est vrai que sans être bonne en physique, on peut imaginer quand même que c'est énorme comme charge. Alors cette bombe sera larguée suspendue à un parachute pour freiner sa chute. Et c'était une bombe qui était équipée de sondes et de capteurs de pression pour la déclencher à une altitude entre 500 et 600 mètres seulement au-dessus du sol pour optimiser son effet.
Bah tiens.
Donc c'est pour ça qu'elle avait le parachute, elle tombait pas trop vite, elle
D'accord.
s'est arrêtée entre 500 et 600 mètres. pour exploser.
D'accord.
Alors son fonctionnement, je ne vais pas m'étaler hein, là-dessus, oui. C'est par insertion, c'est en fait on fait exploser une charge conventionnelle
D'accord.
qui va propulser la fameuse balle d'uranium contre une autre cible d'uranium et cet impact provoquera la réaction nucléaire, c'est uranium contre uranium, mm-hmm. ça s'appelle la fission.
D'accord.
Et ça déclenche un flash lumineux aveuglant suivi d'une onde thermique et d'une onde de choc. Et ça, c'est la bombe qu'a reçue Hiroshima.
D'accord. Tu peux nous rappeler les conditions du lancement de cette arme très spéciale que personne ne connaissait ?
Oui, bien sûr. La bombe, d'abord, a été assemblée dans les îles Mariannes, hein, dans le Pacifique, les derniers jours de juillet 1945. Et le matin du 6 août 1945, la forteresse volante B-29 va décoller. Et c'est le colonel Paul Tibbets qui a baptisé l'avion Enola Gay du nom de sa mère.
Ah, d'accord.
Oui. Depuis un an, c'est lui qui dirigeait le groupe de lancement d'une arme spéciale. Alors lui et son équipage de volontaires ne sauront que la veille de l'opération que cette arme est radioactive, quand même. Et ils ne seront informés seulement qu'en cours de vol que la cible est la ville d'Hiroshima.
D'accord.
Alors il y aura deux autres avions qui vont l'accompagner, hein, un pour des instruments, un chargé d'instruments de mesure et l'autre équipé pour la photo, la fameuse photo,
la fameuse photo avec
du
le champignon. Voilà, c'est ça. Et alors, ça s'est passé comment, en fait ?
Alors, il faisait très beau à Hiroshima ce jour-là. Les enfants partaient à l'école, les gens au travail faisaient leurs courses. Ils étaient complètement inconscients de ce qui allait devenir...
Une journée classique.
Une journée complètement classique, mais belle.
Mm-hmm.
Du moins, elle commençait bien.
C'est ça.
Ça allait devenir la pire tragédie de l'histoire.
Bien sûr.
Alors, c'est à 8h15 précisément, le 6 août, heure japonaise, soit 19h15, le 5 août à Washington, que les portes de la soute de l'avion d'Enola Gay s'ouvriront. Et la bombe sera larguée pour exploser 53 secondes après, à 600 mètres au-dessus de la ville.
D'accord.
L'avion devra effectuer un virage serré pour s'éloigner au plus vite du champignon qui était haut de 10 000 mètres.
Ah oui, tout de même.
Alors l'équipage était muni de lunettes spéciales. Cet équipage, il a vu Hiroshima disparaître dans un immense éclair et un grondement de fin du monde. Et il faut savoir qu'on pouvait voir le champignon à 500 km
D'accord.
à la ronde.
Ok. Et moi, du coup, quel débat ? Quels dégâts, pardon, combien de morts et quelles conséquences ?
Alors, c'était une boule de feu. Hein. Il y avait 6000 degrés Celsius au centre.
Ouais.
On ne peut pas imaginer ce que c'est. Hein.
Non, j'imagine
quand on
pas,
imagine
non.
que l'eau bout à 90 degrés, là,
ça.
On est à 6000 degrés. Et 1300 degrés à 600 mètres du centre.
D'accord.
Et cette boule a tout carbonisé et a incendié le reste sur 3,5 km de rayon.
Mmh. Hein,
donc, 7 km... De diamètre.
Mmh.
Alors l'effet de souffle a été comparé à des vents violents pouvant atteindre 800 km/h. Je veux dire, on n'a jamais connu ça. Bah, le plus grand des cyclones, c'est 300 km/h.
Ouais.
Là, on est à 800 km/h.
J'imagine.
Et bien évidemment, ça s'est propagé du centre vers la périphérie en rasant tout, bien évidemment. Puis, en fait, c'est revenu, ces vents violents sont revenus vers l'épicentre avec chargé de feu, c'était un vent de feu qui a multiplié les incendies.
D'accord.
Et en fait, dans cet enfer, tous les humains ont été anéantis.
Mmh.
Alors, dans le ciel, l'explosion avait provoqué l'énorme nuage en forme de champignon, duquel est tombée une pluie noire et grasse. Et les survivants, qui ne sont pas morts
D'accord,
lors de l'explosion, vont souffrir et mourir de très graves brûlures, de lésions
D'accord.
internes, d'irradiations aiguës. Voilà.
Mmh.
Et les radiations résiduelles vont polluer les eaux et les sols, ce qui va encore augmenter les dégâts sur les humains, qui ne pourront ni boire ni manger et qui mourront dans d'atroces souffrances.
Mmh.
C'est pas une émission légère aujourd'hui.
C'est une réalité historique.
Et, et le gouvernement japonais ne sera informé du bombardement d'Hiroshima qu'à 16h. Et il n'acceptera la capitulation que le 8 août 1845, après le bombardement de Nagasaki, avec une bombe, la bombe au plutonium qui s'appelait Fatman.
D'accord.
Ils avaient le sens de l'humour,
oui.
les Américains, je trouve.
Ah oui, oui.
Alors, selon une enquête américaine de février 1946, sur les 245 000 habitants d'Hiroshima, 80 000 sont morts sur le coup.
Okay.
S'ajoute au bilan 10 000 blessés graves et 30 000 irradiés.
D'accord.
Et le bilan final à moyen et long terme est estimé à 140 000 personnes.
D'accord.
Et sans parler bien sûr du traumatisme psychologique sur les générations à suivre, sur ceux qui n'étaient pas là et qui ont vu leur famille. C'est là que la littérature, Linda, nous permet de comprendre les conséquences d'avoir lancé la bombe, de comprendre la dureté aussi d'avoir survécu. Alors, on va écouter Linda après une pause musicale, mais moi je vous recommande le film d'Alain Resnais, hein, Hiroshima, mon amour, d'après le livre de Marguerite Duras, qu'on trouve en format poche, chez Doucet bien sûr.
Oui.
Et ainsi que le manga et le film d'animation Gen d'Hiroshima, qui est une œuvre autobiographique de Keiji Nakazawa, qui est un miraculé de cet enfer. C'est vraiment un document, deux documents d'exception. Et bien sûr, les œuvres essentielles que tu vas nous proposer, Linda. Après, une pause musicale, c'est pas japonais, c'est pas chinois.
Mais...
c'est Brian Ferry qui nous chante Hiroshima, mon amour.
Un country simple, sad. Press play, begin.
Alors, vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3. On va retrouver, donc, pour donner un petit peu plus de sens encore à l'histoire des gens d'Hiroshima, Linda, notre spécialiste littérature, qui va vous proposer deux œuvres poignantes.
Alors, effectivement, j'ai choisi deux textes qui permettent de parler de différents aspects d'Hiroshima. Le premier, c'est Le poids des secrets, écrit par Aki Shimazaki et publié aux éditions Babel. C'est une pentalogie, une série de 5 romans qui se font écho et sont liés les uns aux autres. Chaque titre va évoquer de manière très poétique et symbolique un végétal ou un animal en rapport avec les personnages à un moment de leur vie. S'il est difficile d'évoquer ce qui fait le propos de l'histoire, on peut dire que ce qui en fait le charme et la force, c'est d'abord cette construction un peu particulière qui met au centre deux personnages, Yukio et Yukiko. Au départ, ils sont amis, inséparables, on les suit dans les premières années de leur enfance à Tokyo. Ils vont être séparés par certaines circonstances et ils vont se retrouver quelques années plus tard à Nagasaki, mais sans se reconnaître. Et pourtant, ils vont devenir à nouveau amis. Dans ce Japon un peu étonnant, puisqu'on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les désastres d'Hiroshima et de Nagasaki, provoqués par la bombe atomique, ne sont pas très loin. Et là, on se demande effectivement, dans cette ambiance un peu étrange, ce qui rapproche ces deux enfants, au nom si proche, redevenus voisins par le hasard ou peut-être par autre chose. Survivants de la bombe, ils sont la racine de ce cycle romanesque. 5 regards vont explorer à travers les 5 textes leur passé, leur présent et leur avenir. Ce sont des textes toujours écrits à la première personne du singulier qui vont mettre en scène leurs parents, leurs enfants et leurs petits-enfants. Le lien entre les deux enfants est le fil rouge qui permet de pénétrer au cœur du Japon de l'entre-deux-guerres et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le poids de ses traditions, son fanatisme guerrier et son hostilité envers les émigrés, en particulier coréens, venus y travailler dans les années 20. Chaque épisode dévoile aussi des secrets enfouis, révélés du vivant des personnages pour certains après leur mort pour d'autres. L'écriture, simple et poétique, est un autre point fort de ce texte. Cette poésie, même quand elle cède la place à l'horreur des événements, tragiques comme l'attaque sur Nagasaki et ses conséquences. Phrases et chapitres courts évoquent avec une très grande simplicité les cadres de vie comme les sentiments des personnages. C'est une histoire où la mort et l'amour sont liés, intimement liés. Un texte bref qui parle de l'égoïsme d'un homme, d'un adultère fatal et d'une complicité entre deux ados, mais un amour naissant mais qui sera impossible. Mais au-delà des secrets bien gardés, Aki Shimazaki nous propose une peinture terrible de la famille japonaise à cette époque, pendant la première moitié du XXe siècle. Le poids des convenances qui ne permet pas d'être maître de son propre destin amoureux, sauf si on a le courage de rompre avec sa famille. Et puis il y a aussi l'ombre de Nagasaki qui plane sur ce récit. Mais là encore, la dignité et la pudeur s'imposent. La terrible catastrophe est tue, la terreur et la douleur sont passées sous silence. Nulle haine, nul désir de vengeance, mais l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Vous l'aurez compris, Le poids de secret est un texte sobre et pudique, un roman tout en nuances qui raconte les petites histoires d'une famille qui vit ses propres drames à l'ombre de la grande histoire. Dans ce texte écrit en français, Aki Shimazaki réussit à se libérer de la rigidité de sa propre culture et notamment ce qui concerne la question identitaire. Ses romans transmettent explicitement une leçon. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé, que cela concerne la haine, le racisme ou la vengeance.
C'est bien d'aujourd'hui encore.
Quand je trouve, c'est ce que
ça évoque.
Je suis bien d'accord avec toi.
Le premier volume, c'est Tsubaki, c'est ça ?
Tsubaki, oui.
Tsubaki. C'est très joli, ça veut dire camélia, je crois.
Ça veut dire camélia. Et on a l'explication, en fait, de pourquoi le camélia au fil du roman.
D'accord.
Merci, Linda. Alors, il y en a un autre livre, ce sont des notes, c'est ça ?
Alors, ce sont les notes de Hiroshima qui paraissent en 1965. Kenzaburo Oe est alors un jeune écrivain qui se rend à Hiroshima pour assister à la 9e conférence contre les armes atomiques. L'événement est pour lui décevant et les dissensions entre les participants sont nombreuses, parfois terribles. L'écrivain prend peu à peu ses distances et va alors se rapprocher des Hibakusha. Ce est le terme sous lequel on désigne les victimes des bombardements atomiques de Hiroshima.
Ah, Hibakusha.
Hibakusha.
D'accord.
Je ne connaissais pas, et en fait c'est vrai que ça indique tous ceux qui vont être atomisés et irradiés.
Ces rencontres... Oui, c'est stigmatisant peut-être, ce terme-là.
Stigmatisant, et en même temps, je pense qu'il a voulu décrire une réalité qui lui permettait en fait de rencontrer et d'avoir un contact différent. À travers ses personnages, ses rencontres, ses témoignages, il va raconter ses histoires et en faire des notes et des réflexions qui sont un véritable témoignage historique et philosophique de l'époque.
Donc c'est un ouvrage majeur.
Ouvrage majeur, même
historique.
Si... Historique, on peut le sentir un petit peu daté, mais c'est vrai que quand on le lit, pour moi, c'est un des textes essentiels sur l'époque. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, il va poser des questions comme... comment on a pu décider de bombarder des populations civiles, comment on a pu organiser l'anéantissement avec une arme atomique. Donc, il va raconter les séquelles physiques, psychologiques. L'auteur va chercher à comprendre quelles ont été les premières actions des victimes passé le terrible effroi qu'elles ont ressenti à l'instant de l'explosion de la bombe. Il va chercher également à comprendre comment se sont organisés les secours. Il y a un très beau passage autour d'un médecin qui s'appelle le docteur Shigeto. Le docteur Shigeto, en fait, il est irradié et il va être le premier à organiser les secours, mais aussi à comprendre en fait les conséquences du bombardement atomique sur le corps humain. Mmh. Il va y avoir aussi d'autres choses qui vont apparaître. La mort est totalement présente, on en a conscience. Il va être aussi question de suicide, puisqu'effectivement le suicide va s'immiscer en plus de la mortalité due aux irradiations dans cette histoire. Et puis en fait, ce que va vouloir faire Kenzaburo Oe, c'est raconter en fait... ce qui se passe à travers ces personnes, c'est-à-dire qu'il va raconter l'histoire, mais aussi l'espoir. C'est-à-dire comment, quand on a vécu ce genre de choses, on peut être dans la conciliation, dans quelque chose d'humain, dans quelque chose qui va permettre de faire résilience. C'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui.
Oui, mais ça correspond bien.
Ah mais totalement. Mmh. Et puis en fait, il va raconter ce qu'est la souffrance de cette population et en fait, il va en faire quasiment l'archétype en fait de ce que pourrait être cette société japonaise. C'est-à-dire qu'après avoir traversé un drame aussi terrible, comment on est capable, en fait, non pas de parler de vengeance, de haine, mais de faire une forme de consensus et de conciliation pour faire, en fait, que l'humanité, en fait, apparaissent à nouveau, même dans l'horreur, même dans la souffrance. C'est à chaque fois ce que l'on considère quand on traverse des tragédies oui. d'une telle ampleur. C'est comment, en fait, on est capable d'avancer, de pardonner et, en fait, de créer quelque chose de tout ça. C'est un texte passionnant. Effectivement, il a valeur de document historique. Mm-hmm. Ça parle de dignité, d'humiliation, de honte. La dernière chose que je pourrais dire, c'est que Kenzaburo Oe a reçu le prix Nobel de littérature en 1994.
Oui.
J'espère que ce prix Nobel...
Oui, c'est un grand écrivain japonais.
Ah non, mais exactement. Que ce texte a permis de faire découvrir son œuvre à beaucoup de personnes, parce que c'est un texte, cette œuvre essentielle, qui travaille à la guérison et à la réconciliation de l'humanité entière. C'est un texte pour ne pas oublier, c'est un texte toujours d'actualité, qui donne à ce reportage la dimension d'un traité d'humanisme d'une portée universelle. Et c'est ça, je crois, le plus important encore aujourd'hui.
Merci Linda, tu peux nous redonner le titre de ce livre de Kenzaburo Oe.
Ça s'appelle Note d'Hiroshima.
Note d'Hiroshima, dans toutes les bonnes librairies, bien sûr.
Ah, j'imagine.
Merci Linda, merci infiniment. On va méditer un peu là-dessus avec oui. Une chanson qui s'appelle The Way of the Ghost, qui est aussi une chanson dédiée à Hiroshima. Bon, c'était The Way of the Ghost hein, de Tsushima. Très, très jolie
musique.
Ah oui, c'est joli. Oui. Chanson. Merci Didier pour ça. Bon Didier, tu nous parles du parc du Mémorial de la paix d'Hiroshima.
Oui.
Alors, que peut-on voir dans ce parc?
Alors, le parc du Mémorial de la paix est un jardin public de 42 hectares.
Situé, c'est grand.
Oui,
c'est grand.
Situé sur une île au milieu du fleuve Ota, en plein centre d'Hiroshima. Alors, c'est classé au patrimoine national en 2007. Il est, avec le musée et le dôme de Genbaku, l'un des symboles du bombardement atomique de 1945.
D'accord.
Je pense que les gens ont l'image.
Oui,
de,
on a l'image du dôme
de cette ruine.
De cette ruine.
Voilà.
Oui.
Ce grand espace vert compte une soixantaine de monuments dédiés à cet événement tragique. Il est conçu comme un lieu de prière pour les victimes de la bombe atomique et pour la paix définitive dans le monde. Le parc a été ouvert le 6 août 1949, soit 4 ans après Hiroshima. Chaque année, à 8h15 précise, heure du premier bombardement, on y célèbre la cérémonie du souvenir.
Oh, ça doit être terrible.
Ah oui. Bon, des fois, on en a des images hein, qui nous sont retransmises. Nous,
c'est vrai.
On en parle parfois. En entrant dans le parc, on tombe directement sur une allée immense avec un premier grand monument, le cénotaphe, en forme d'arche qui représente tous les disparus. Puis derrière domine le célèbre dôme du Genbaku, qui veut dire bombe atomique.
Alors, qu'est-ce que c'était le Genbaku, Didier?
Ah, c'est le mémorial en lui-même. Le dôme fut le seul bâtiment à rester debout après près du lieu où explosa la bombe.
On se demande
c'est le
pourquoi.
Squelette, oui, ouais, squelette des restes du du hall pardon, de la promotion des industries qui avait été construit en 1914.
Oui, un bâtiment moderne.
Voilà, il a été préservé tel qu'il était juste après le bombardement. Tel qu'on le voit, c'est comme ça, il est maintenu tel qu'il était. Grâce aux nombreux efforts, dont ceux des habitants d'Hiroshima, il a été conservé et renforcé avec de l'acier et de la résine synthétique et entouré d'un jardin qui incite au silence et au recueillement.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres monuments remarquables? Alors, en dehors du Genbaku, donc de cette ruine, et de l'arche qui représente les disparus.
Oui, il y a le monument de la paix des enfants.
Monument de la paix des enfants.
Oui, c'est une cloche sur laquelle se dresse une statue d'une petite fille tenant dans ses bras un origami de métal en forme de grue. Alors, cette statue, c'est un souvenir de Sadako Sasaki, une jeune fille décédée en 1955 d'une leucémie liée aux radiations nucléaires de la pluie noire que tu as évoquée.
Ah ouais.
Le pays tout entier sera touché par cette histoire et le mémorial verra le jour en 1958 grâce aux donations provenant de 3200 écoles japonaises et de plusieurs pays.
Oui, on peut comparer, je crois, Sadako Sasaki à Anne Frank un peu, dans la représentation je dirais Anne Frank qui représente les enfants juifs qui sont morts dans les camps de concentration, et elle, je dirais, tous les enfants qui sont morts ensuite.
Voilà, autour de la statue, il y a des vitrines qui renferment des milliers de grues en papier multicolore. Alors, des grues avec des messages offerts par des visiteurs de toutes les nationalités. Ces oiseaux, symboles de longévité, ont pour but d'offrir aux générations futures l'idée d'un avenir meilleur dans la paix.
Oui, on peut le souhaiter. C'est vrai que la grue,
clairement,
c'est ce que ça représente.
Voilà, c'est ça.
Ça doit être très émouvant.
Oui, je pense.
Alors, il y a aussi un musée dans le parc, Didier, parce que dans le film d'Alain René, c'est un petit peu l'histoire. Hein, c'est l'histoire d'une actrice qui va faire de la figuration pour un documentaire sur l'ouverture de ce musée.
Oui. Alors, oui, un musée qui a pour objectif de montrer d'abord le point de vue des victimes. Les expositions sont centrées sur les dommages infligés à la population. Il y a des photos prises par des Japonais immédiatement après l'explosion du 6 août. Il y a des vestiges, des objets personnels laissés par les victimes. Et ces 20 000 objets nous montrent la réalité après l'explosion. Aucune explication n'est fournie afin que le visiteur réfléchisse de même au sens de ce qu'ils observent.
Mais ça doit être terrible quand même.
Oui, oui. Il y a une salle qui s'appelle « Les cris des âmes ». Elle présente les objets et des portraits qui nous aident à nous représenter ce qu'ont vécu les victimes de la bombe et leurs proches. Certains de ces objets sont devenus le sujet de livres pour enfants que tout le monde connaît au Japon aujourd'hui. Il y a l'histoire du petit garçon de 3 ans et de son tricycle, celle du collégien de 13 ans et de son bento, celle d'un autre collégien avec son uniforme. Aujourd'hui, près de 80 ans après, les Japonais profitent de ce jardin plutôt très spécial, un jardin qui représente le devoir de mémoire et qui transmet un message sur le bien vivre ensemble. On ne peut plus d'actualité.
Merci Didier. C'est fini Asialogie et peut-être que la saison se termine d'ailleurs avec cette émission.
C'est ça.
On vous retrouve peut-être la semaine prochaine, chers auditeurs. En tout cas, on vous retrouve à la rentrée.
Avec certitude à la rentrée.
Avec certitude à la rentrée.
Et avec plaisir en plus.
Et avec super plaisir.
Voilà.
Un grand merci Linda, merci d'être venue. On se retrouve à la rentrée Linda.
Avec plaisir.
Tu vas réfléchir à plein de choses à nous présenter.
Exactement.
Bon, on vous souhaite à tous un très bel été. Si on ne se revoit pas,
Si on ne nous entend pas.
Oui, voilà. En tout cas, on
pourra
peut-être
nous réécouter dans l'été déjà.
Oui, c'est ça, peut-être qu'on
passera... Au moins par podcast, sûr.
Oui, les podcasts.
Et pourquoi pas sur l'antenne.
On espère d'être diffusé cet été.
Voilà.
Et puis, on espère vous faire une surprise la semaine prochaine avec une autre émission. Mais ce serait une surprise s'il y en a une autre émission. Sinon, ce seront des rediffusions. Allez, à bientôt.
Moi, je vous dis merci pour
cette
belle année.
Bonne vacances à tous, profitez bien de l'été.
À bientôt.
Salut.